Merci Colette. Je dirais simplement que pour l'équipe qui anime Médan, et vous l'admirerez, j'espère, ou vous admirerez ses résultats dimanche, Colette en fait partie puisqu'elle est membre du conseil d'administration du musée. Donc c'est un travail collectif. Alors c'est vrai, je voudrais parler de l'image pendant l'affaire Dreyfus, et finalement ce que je vous dirai s'inscrira tout à fait dans la suite de ce que M. Kliblat vient de dire. J'aimerais évoquer devant vous les images de ce procès étonnant qui a duré 15 jours, vous le savez, 15 audiences exactement, du 7 au 23 février 1998, ce procès pendant lequel on a vu défiler à la barre, et je crois que c'est unique dans l'histoire des assises, des généraux, le chef d'état-major de l'armée française, plusieurs anciens ministres, un ancien président de la République même, c'était quasiment Perrier. Et ce procès que la France entière a en suivi, qui a même arrêté, paraît-il, la vie parisienne. Les commerçants se sont plaints de voir leur chiffre d'affaires baisser. Ce procès, 200 à 150, peut-être 200 ou plus privilégiés ont pu le suivre, mais tout était dans une sorte de huis clos. Et en réalité, il a malgré tout été perçu à l'extérieur grâce justement à des images que la presse a pu diffuser, je dirais à la fois grâce aux reportages très nombreux que la presse a pu donner de ce procès et grâce aux images que la presse illustrée en particulier a pu en faire voir. Alors je crois qu'elles sont intéressantes ces images, ce ne sont pas des photographies, car il n'y a eu très peu de photographies de ce lieu obscur finalement du procès de la cour d'assises de février 98, alors qu'il y a plusieurs photographies assez intéressantes, vous le savez, du procès de Rennes qui aura lieu un an plus tard, donc ce ne sont pas des photographies. Ce n'est pas non plus aux caricatures que je m'intéresserai, comme l'a fait M. Kliblat à l'instant. Les caricatures qui, on l'a bien vu, sont un jeu assez complexe avec l'événement, une sorte de réflexion médiatisée sur l'événement. Je m'intéresserai plutôt à cette presse illustrée que Jean Vatelet a si bien évoquée hier en fin d'après-midi, à ces images lisses, immédiatement représentatives, clairement lisibles, qui sont celles qui sont données juste après l'événement dans ces journaux qui ont pour titre, bien toujours le mot illustré, vous le savez, le monde illustré, la vie illustrée, l'illustration, etc. Dans ces dessins, les corps ne sont pas dégradés, étirés ou grossis comme dans la caricature. Au contraire, ils sont offerts dans leur plasticité naturelle et sont inscrits dans un décor soigneusement humanisé. Là, le dessin abandonne la laideur à la caricature. Il insiste au contraire sur le contour, sur l'enveloppe, sur le vêtement, le miroitement de l'objet, sur l'éclat de l'insigne. Je dirais qu'il s'agit finalement d'équivalent graphique de ce que, à la même époque, on découvre avec les personnages de cire de Madame Tussaud à Londres ou bien du musée Grévin en France. Personnages modelés, chair luisante, pleine. La simplicité réaliste confère un air de proximité et fabrique des êtres rassurants, l'événement par ses dessins de la presse illustrée est comme domestiqué, la célébrité comme rendue quotidienne, comme mise à la portée de tous. Alors essayons de les regarder, ces images du procès qui se concentrent sur quelques gestes, quelques attitudes. On va voir la première peut-être. Voici Zola qui écoute pendant ses audiences, qui est assis, appuyé sur sa canne, l'air absent. Il s'ennuie, dit-il. D'ailleurs, il le dit dans ses notes. Je sais tout cela, je m'ennuie, car la vérité pour moi n'est plus à faire et je ne m'intéresse pas à la vérité qu'on fait. Voici maintenant son avocat, Laborie. Là, j'ai dû passer une image. Peut-être qu'on n'a rien. Voilà Laborie, pardonnez-moi. Voici son avocat, Laborie, au contraire, qui, à la différence de l'accusé, est dressé, agitant avec fougue ses grandes manches noires, qui est en contraire l'homme qui, vous le savez, fera toute l'animation du procès. Et voici celui qui a été le personnage régisseur du procès, le fameux président Delgorgue, qui s'est rendu célèbre par son fameux diktat. Essayant d'empêcher Audrey Fusard de parler, la question ne sera pas posée. La tête seule dépasse, on ne verra jamais le reste du corps qui est caché derrière les boiseries. En fait, brave bonhomme finalement qui laissera parler, malgré qu'il en ait les Audrey Fusard et qui laissera les témoins en tout cas s'exprimer. Je pourrais évoquer aussi, je n'ai pas le dessin, l'avocat général Van Cassel, corps maigre, visage aigu, au long favori, ou bien je pourrais évoquer les témoins militaires, qui eux sont importants. Voici une photographie générale de ces témoins, où l'on voit d'ailleurs s'opposer les costumes noirs des civils et les galons d'or qui, ici on ne le voit pas sur le noir et blanc, bien sûr, étincellent, car le ministre Baillot a ordonné à tous ses subordonnés de se mettre en grand uniforme pour comparaître devant la cour d'assises. C'est un spectacle. Alors le spectacle, il est, vous l'imaginez, vous le savez, pathétique, solennel. Il peut être comique aussi. On a tous relevés dans les histoires de l'affaire Dreyfus ou dans les films même qui ont pu être faits sur l'affaire, la fameuse intervention de Dupaty de Clam qui a constitué un moment inoubliable, Dupaty qui s'avance dans le prétoire d'un pas cadencé à la prussienne, qui salue militairement la cour, qui fait demi-tour pour faire face au jury à qui elle adresse un autre salut militaire, puis qui se tient à la barre, raide au garde à vous, puis qui ensuite, après avoir répondu aux questions, va sortir en se livrant au même exercice. L'hilarité générale, évidemment, dans la salle, aussi bien d'ailleurs du côté des Dreyfusards que des anti-Dreyfusards. C'est trop drôle, dit-on à la Borie, à qui on demande de le faire revenir rien que pour le spectacle. Alors, les titres de la presse illustrée reprennent ces images et selon leurs choix idéologiques ou selon leurs choix esthétiques, ils les détaillent plus ou moins. Ils choisissent bien sûr ce qui les intéresse. J'ai choisi de commenter pendant quelques instants les trois images que le Petit Journal a choisies pour rendre compte de l'événement. Que le Petit Journal a choisi, je veux dire que le supplément hebdomadaire du Petit Journal illustré, vous le savez, a choisi trois scènes qui sont finalement des scènes qui encadrent bien le procès. Une scène qui est une scène d'ouverture, la voici, c'est Zola qui arrive au palais de justice, que l'on voit entouré par la foule menaçante, protégé par la police. C'est tout le problème de cette atmosphère d'émeute qui a entouré le procès. Une scène de clôture qui est le réquisitoire du fameux Van Cassel que je vous montre ici. Personnage maigre, doigt accusateur, en train de faire son réquisitoire. Et évidemment que le Petit Journal a choisi non pas Labori l'avocat, mais l'avocat général Van Cassel. Et puis un moment central, troisième image, qui est la fameuse altercation ou la fameuse opposition qui, à la cinquième ou sixième audience du procès, a eu lieu entre les deux personnages qui sont au centre de l'affaire, vous les reconnaissez. D'une part, le colonel Picard, qui est le chef du service des renseignements qui est passé, peut-on dire, du côté des Dreyfusards, qui a dénoncé les malversations commises en 94, et puis son ancien subordonné, qui lui est devenu chef du service des renseignements, le fameux colonel Henry. Alors, ils s'affrontent lors d'une confrontation. Il y a eu beaucoup de confrontations dans ce procès, qui ont été très, très célèbres, très, très dramatiques, très dynamiques. Ils s'affrontent ensemble, et Henry accuse Picard d'avoir menti. Alors, ces images qui, comme le disait d'ailleurs Charles Grivel hier, sont justement ces moments dramatiques saisis, et non pas les moments banals, bien sûr. Ces images, malgré tout, le Petit Journal, vous le voyez, les donne d'une façon relativement lisse, finalement, sans parti pris apparent. Elles prétendent à l'objectivité. Alors, il faut ouvrir le journal, il faut découvrir à l'intérieur le commentaire qui est donné. Cela donne, pour la description, la première que vous avez vue, pour la description de l'arrivée de Zola, ceci: nous aurions bien aimé ne plus nous occuper de cette honteuse affaire, de ces débats odieux où l'on s'est efforcé de détruire, d'atténuer l'un des derniers respects qui nous reste, celui que tout vrai Français porte à l'armée. Au-dedans, comme au-dehors de l'enceinte, des paroles odieuses ont été prononcées, des actes abominables, de violence sont accomplis. À ces mauvais Français, l'on pourrait représenter qu'ils font pleurer la patrie. Il est vrai, lugubre compensation, qu'ils font rire l'étranger. Voilà le commentaire que le Petit Journal apporte à ces images d'apparente objectivité. Images malléables idéologiquement, rapides, brutales, qui préparent sans doute, par leur rapidité et leur brutalité, cette déformation du mouvement que la caricature va faire plus tard. En revanche, j'aimerais m'intéresser maintenant à d'autres images, celles qui sont données par le texte lui-même du reportage, des images que je pourrais appeler narratives finalement, ou descriptives, qui seront les portraits que les reporters tracent des différents acteurs de l'affaire et qui, bien sûr, sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus médités, qui sont fondés sur des descriptions, qui savent jouer avec les apparences physiques, qui s'attardent sur les détails, qui aiment à les mettre en valeur. Alors, voici deux portraits que je voudrais détailler, celui de Zola, et vous le verrez dans un instant, celui de Picard. Voici Zola, le jour de la première audience, sous le regard d'Albert Bataille du Figaro. Il est midi. Quand M. Émile Zola fait son entrée dans la salle d'audience, il est en jaquette noire, en gilet clair à transparent à midonné. Il paraît tout heureux, tout guilleret. Le régime d'amaigrissement qu'il suit avec autant d'obstination que la révision du procès Dreyfus lui a rendu toute la sveltesse de sa 20e année. Voici un deuxième portrait, un peu plus détaillé, par cette fois-ci le reporter du Petit Journal. M. Zola est vêtu d'une redingote noire et d'un pardessus gris. Aux boutonnières de la redingote et du par-dessus apparaît la tache rouge de la rosette de la Légion d'honneur. Les rosettes sont neuves, éclatantes. L'ami de Dreyfus a sur le nez un lorgnon d'or retenu par une petite chaîne d'or. Les mains sont gantées de rouge. Troisième portrait, comparé avec les précédents, donné par le journal. Zola est vêtu d'un veston foncé, d'un par-dessus gris fer. Sous le veston court le liseré d'un gilet blanc, un col rabattu, ganté. Il tient de la main gauche son chapeau haut de forme et de la droite une canne à pomme d'argent. De temps en temps, il pose sa canne pour assujettir son lorgnon retenu par un filet d'or.
Quelle attitude ? Aisée ? Ses yeux clignent bien quelque peu sous l'arcade sourcilière et l'ensemble de sa physionomie dénote un je ne sais quoi de nerveux, d'acharné et d'intraitable. Encore les tempes sont à coup sûr orageuses, mais quand même le front large et proéminent garde une placidité robuste en son ferme dessin, couturé seulement par un réseau de rides qui disent le labeur, la fatigue et la volonté de cet homme. D'un mouvement rapide, il vient d'enlever son pardessus et à la boutonnière de son veston éclate le ton rouge de sa rosette d'officier de la Légion d'honneur. Je ne peux pas illustrer ces portraits, bien sûr, qui sont autre chose que des dessins, mais j'ai choisi un peu en contrepoint de montrer cette lithographie d'Henri de Groux qui, elle, stylise ce qui a été décrit ici de façon tout à fait réaliste et précise. La lithographie d'Henri de Groux que vous voyez ici, qui a joué un grand rôle d'ailleurs pour les Dreyfusards dans leur combat, c'est un peu la reprise de l'attitude de l'ennui que l'on a vu plus haut, mais une reprise où l'ennui est récupéré dans une pose positive, puisque de l'ennui, on passe à cette attitude d'attente sûre et ferme, qui est celle de Zola. Et voici toujours pour ajouter une sorte d'illustration graphique. Voici deux documents qui sont relativement rares, qui sont deux photographies cette fois-ci de l'intérieur de la salle d'audience. On a peu de photographies, je le disais, mais voici peut-être ce qui permet d'imaginer par le document ce qu'était l'atmosphère d'entassement, de cohue extraordinaire avec les jeunes avocats qui sont par terre, les dessinateurs qui suivent le procès. Enfin, on décrivait des gens accrochés à des poils ou aux rideaux, etc. Voici la cohue extraordinaire de la salle d'assises que vous pouvez imaginer, un gros plan ici peut-être. Quatrième portrait, pour revenir au propos qui est le mien, voici Zola comme filmé par le reporter de la Libre Parole qui dessine avec tout à fait une grande précision les signes de la nervosité de Zola. Il mord la pomme de sa canne, se passe la main dans le cou, écarte ou secoue les doigts à la manière des pianistes qui craignent les crampes, essuie son lorgnon, fait danser sa jambe gauche, rajuste son col, regarde en l'air, frise sa moustache, choque ses genoux, secoue la tête, crispe ses narines, se tourne à droite à gauche, et tout cela dans le même instant, et tout cela sans discontinuer. Deuxième portrait, pour jouer avec le précédent, celui de Picard, du fameux Picard dont j'ai parlé à l'instant, qui est un inconnu au moment du procès, car il est seulement apparu, mais dans un huis clos, lors du procès Esterhazy, qui a précédé de quelques jours, et qui apparaît, cette fois-ci, au grand jour de la cour d'assises, dans son uniforme bleu ciel des tirailleurs algériens, car il était affecté à un régiment de tirailleurs algériens, qui contraste avec les couleurs sombres que portent les autres officiers. Depuis le 13 janvier, on l'a enfermé au Mont-Valérien, retenu aux arrêts de forteresse. Le 1er février, un conseil d'enquête réuni pour statuer sur son sort a résolu de le mettre en réforme pour faute grave, mais a ajourné la communication. Alors le voici, militaire mais défuseur, officier sans commandement, prisonnier en sursis. Toutes les ambiguïtés s'attachent à sa personne. Chacun se demande comment il va réagir. Le suspense, effectivement, est entier. Le reporter du Figaro livre ses premières impressions, grand, mince, élancé, la physionomie très douce, une fine moustache estompant à peine la lèvre. Il a 43 ans et on lui en donnerait à peine 30. Il s'exprime d'une voix très sympathique, tout à fait séduisante. C'est vraiment un joli officier sous son dolman bleu de ciel, soutaché d'or, d'officier des tirailleurs algériens. Voici un commentaire un peu plus détaillé de l'Aurore qui va assortir sa description d'une réflexion psychologique. Vêtu de l'uniforme d'officier de Turco, dolman bleu, pantalon rouge bouffant, d'un pas alerte, le lieutenant-colonel s'avance à la barre. Nous l'avions aperçu déjà dans le couloir du conseil de guerre, dans une embrasure de fenêtre, lors du procès Esterhazy, tout seul. Il regardait par les carreaux courir les nuages au-dessus des arbres du vieux jardin, sa physionomie à la fois énergique et timide, son allure crâne mais point soldatesque, ses yeux clairs au regard lointain, on ne sait quoi d'artiste dans sa figure longue au front haut, sur lequel d'un geste fréquent il passe sa main, tout avait plu en lui. Nous étions à l'audience, une trentaine de rédacteurs judiciaires en complet désaccord sur le fond de l'affaire, mais nous avions été unanimes à reconnaître que celui-là vraiment avait l'air de quelqu'un. Et voici un troisième portrait, cette fois-ci tout à fait enthousiaste, donné par Séverine. Séverine, que vous connaissez tous, qui est la rédactrice du journal féminin La Fronde, et qui, elle, est tout à fait transportée d'enthousiasme devant Picard. Dans son compte-rendu d'audience, elle intitule d'ailleurs « La journée où Picard apparaît », la cinquième audience, « La journée de l'officier bleu ». Et comme tous les autres Dreyfusards, elle découvre avec ravissement ce héros inattendu, ce personnage aux allures d'adolescent romantique qui vient de surgir comme par enchantement. Voici ce qu'elle écrit. Soudain, une apparition. Ceux qui veulent, n'assistant pas au procès, s'imaginer le colonel Picard n'ont qu'à ouvrir les collections de journaux illustrés vers 1878-1879. Cet adolescent, cet exilé, ce mort, et oui, voyez le profil, c'est le portrait vivant, le visage allongé, mélancolique, l'expression lasse comme lointaine du prince impérial peu avant l'exode du Zululand. L'apparence d'excessive jeunesse qui fait que ses 43 ans débarquent aisément 13 rapproche la copie du modèle. De face, la ressemblance s'atténue, mais de profil, elle est saisissante. Le geste est rare, la voix imprécise d'abord ne tarde pas à se poser, mais l'accent demeure d'une inaltérable douceur, raisonnable, pourrait-on dire, dans une justesse de ton et dans sa simplicité. Il est autre, extraordinairement, méditatif, mélancolique, artiste, intellectuel. Et là, c'est le mot, bien sûr, est entre guillemets, puisque c'est le mot de l'époque. Et je terminerai par la description que vous attendez sans doute, et que celle de Séverine vous fait retrouver dans la mémoire, celle que l'on trouve dans Jean Santeuil. Proust, lui aussi, spectateur attentif de ce procès, a su analyser les personnages qui se sont succédés à la barre dans Jean Santeuil, et... avec beaucoup de finesse, a su analyser le mélange de force et de faiblesse qui compose le personnage de Picard. Voici ce qu'il dit, je lis quelques passages seulement. Picard était un cavalier qui revenait d'Afrique, rapide comme descendant de cheval, gardant à pied la rapide et légère allure d'un spahi à cheval, la tête oblique, regardant de droite, de gauche, avec un léger étonnement, tout en allant vivement droit devant soi avec quelque chose de dégagé du corps de quelqu'un qui a jeté la bride de son cheval et laissé ses armes, et quelque chose d'un peu ébloui et étonné, il s'avança jusqu'au président, devant qui il s'arrêta en saluant, non pas militairement, mais avec un mélange de timidité et de franchise, comme quelqu'un dont chaque geste n'a rien de formel et d'extérieur, mais déborde, comme l'allure de sa marche, le port oblique de sa tête, et tout à l'heure le son de sa voix, d'une sorte d'élégante, fine et chaleureuse personnalité. Vous voyez dans tous ces portraits ce qui domine. Ce sont les sensations visuelles qui l'emportent sur les paroles qui peuvent être entendues. Ceux qui sont présents dans la salle, bien évidemment, voient avant d'entendre et se préoccupent d'abord de voir. D'ailleurs, le compte-rendu du débat a pu noter que certaines dépositions étaient difficilement audibles. Mais on a un partage des sensations tout à fait étonnant entre, et on le retrouve dans la presse, entre les articles qui vont détailler de façon extrêmement précise le contenu du procès et ce qui a pu se dire et ce qui a pu évidemment se découvrir. Et puis au contraire, les articles qui vont s'intéresser aux impressions d'audience et qui, eux, restent à la surface de ce qui est vu sans se préoccuper de ce qui a pu être dit. Et d'un côté, on aura, dans les documents que l'affaire nous a légués à nous historiens, d'un côté, on a eh bien, les lourds volumes que publie l'éditeur Stock, le compte-rendu sténographique du procès, 1000 pages, c'est énorme à lire. Et de l'autre côté, on a tous les reportages, toutes les impressions vécues, comme celle de Séverine ou bien d'autres. À certains égards, on pourrait dire, du point de vue de la réception, que le procès Zola ressemble à un film muet, où ne seraient mis en évidence que les jeux d'ombre et de lumière, et on laisse la parole à plus tard. C'est plus tard que l'on comprendra. Hein. Dans l'immédiat, on n'a peut-être pas compris grand-chose. Eh bien, qu'est-ce qui attire le regard dans toutes ces images? Vous l'avez senti, c'est la présence du personnage militaire, c'est le soldat, c'est l'officier qui fascine bien sûr le lecteur de la presse illustrée. Il reconnaît, il retrouve là les personnages favoris qu'il suit semaine après semaine dans ses journaux. Et cela, bien évidemment, ce jeu de l'uniforme, ce prestige et cette séduction du galon, sont des éléments qui défavorisent les Dreyfusards, qui l'ont parfaitement senti. La Borie, dans ses plaidoiries, a essayé de s'opposer justement à ce jeu de l'uniforme, mais a pu difficilement le faire. Le personnage qui, par exemple, jouera d'ailleurs un grand rôle dans le procès, qui cumule tous ses prestiges, qui les combine, à la fois le prestige du Graal, le prestige de l'uniforme, c'est bien sûr le chef d'état-major de l'armée, le général de Boisdeffre, que Séverine, je vais lire la description, observe avec une certaine ironie, comme pour mieux se défendre peut-être du respect qu'il envahit malgré elle. Voici ce qu'elle dit de Boisdeffre qui arrive lors de sa déposition. Entre la double haie de municipaux immobiles qui font passage du prétoire à la porte du corridor, monsieur le général Le Mouton de Boisdeffre, chef de l'état-major de l'armée, s'avance. Il a une couronne de comte dans le fond de son képi, la taille très droite, le crâne très chauve, le parler circonspect. Ainsi qu'il sied un guerrier qui commanda, je crois, 3 mois dans les ambassades, il est à la fois distingué, vain et puéril. Proust regarde avec peut-être plus d'attention de Boisdeffre, en tout cas moins d'ironie que ne le fait Séverine, et toujours dans Jean Santeuil laisse un portrait assez intéressant qui est le suivant, que je résume. Sur son passage, on se découvrait. Il saluait avec beaucoup de politesse comme un homme d'un rang tout à fait prépondérant, un aristocrate clérical qui pouvait exciter de l'envie et qui tenait à désarmer en étant très poli. Mais malgré cela, le premier président de la cour ayant passé, et lui ayant dû saluer comme tout le monde, on sentit ce qu'il y eut d'un peu de forcé dans son salut au petit tic des yeux qui le termina. Que si, malgré tout, il trouvait singulier un temps où le général de Boisdef devait, comme tout le monde, saluer le président du conseil municipal, un homme de rien, qu'il le fallait. Mais il le fit. Il savait faire ce qu'il fallait et mieux que d'autres, avec plus de politesse. Aussi répondait-il aux coups de chapeau, mais sans avoir l'air de les voir, suivant sans penser, clignant les yeux par moments, tendant sa jambe raide, s'arrêtant, tirant sa moustache, passant sa main sur ses joues rougies, comme sur un vieux cheval de bataille qu'il aurait lui-même fatigué. Alors, dans un tel contexte, vous le devinez, le fait d'apparaître sans uniforme semble comme une concession faite à l'usage commun. Les officiers en civil, remarque Proust, font penser à ces dieux antiques qui acceptent quelquefois de revêtir des formes humaines. Et l'absence d'uniforme peut être, chez certains de ces officiers, une marque de faiblesse. Exemple d'une anecdote du procès, Pellieu, le général de Pellieu, le 19 février, rappelé à la barre alors qu'il ne s'y attendait pas, et ce jour-là sans uniforme, il commence par s'excuser. Il se sent effectivement en position de faiblesse, et puis tout d'un coup on le voit se tourner d'un regard accusateur et d'un doigt accusateur vers Picard, qui est confronté à lui au même moment, Picard qui a un uniforme, et voici ce qu'il dit à Picard. Ce que je trouve encore plus étrange, je le lui dis en face, c'est l'attitude d'un monsieur qui porte encore l'uniforme de l'armée française et qui est venu ici, à la barre. Hein, on voit très bien ce qui se joue ici, dans cet affrontement de paroles. L'adversaire n'a pas le droit de porter l'uniforme, on lui refuse les marques de distinction dont il pourrait se prévaloir. Évidemment, Picard commet le scandale le plus important aux yeux de Pellieu. Et pour rappeler des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'anecdote, après le procès, Zola sera effectivement contesté lui aussi dans son uniforme. Vous vous souvenez que dans la description que j'ai lue, tous les portraits insistent sur la rosette de la Légion d'honneur qu'il porte. Zola est officier de la Légion d'honneur, chevalier et officier, et pour les chantres de la presse nationaliste, c'est un scandale. La libre parole, sitôt le procès terminé, va lancer une campagne pour qu'on retire à Zola sa Légion d'honneur. Et effectivement, cela se produira en avril, après la cassation du procès. Le conseil de guerre qui se réunit pour formuler une nouvelle plainte sans qu'on lui demande son avis, demande que Zola soit rayé des cadres de la Légion d'honneur, et il le sera en juillet 98, en signe de solidarité. Plusieurs intellectuels, comme Pressensé ou bien Anatole France, vont à leur tour refuser de porter le ruban rouge. Attaque qui n'est pas du tout isolée. Picard, lui, va bien sûr être mis en réforme immédiatement. Un vieux professeur qui a témoigné au procès, qui s'appelle Grimaud, perd sa chair à l'école polytechnique. Le Blois, un des premiers dreyfusards qui était maire d'un arrondissement, est relevé de ses fonctions. Un lieutenant d'artillerie qui s'appelait Chaplin, qui a commis le crime d'avoir écrit une lettre de félicitations à Zola, est pratiquement dégradé, mis en position de non-activité. Reynac perd sa fonction d'officier de réserve. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'humilier l'adversaire, mais plus fondamentalement de le frapper dans son image sociale, de l'exclure de toute dignité. L'enjeu de tous ces affrontements, il est bien là, et je crois qu'un fantasme récurrent parcourt tous ces portraits, qu'ils soient narratifs ou bien visuels par le dessin, c'est le fantasme de la dégradation, de cette scène terrible, qui est la scène originelle, effectivement, qui est au centre ici de ce qui se joue. Non pas le procès que Dreyfus a pu subir en décembre 1994, et au terme duquel il a été condamné, mais plutôt le châtiment symbolique, plus important, je crois, chronologiquement que ce procès, le châtiment symbolique qu'on lui a imposé le 5 janvier 1898, cette dégradation qui a eu lieu dans la cour d'honneur de l'école militaire. Et il n'est pas étonnant, je crois, qu'aujourd'hui encore, l'image la plus célèbre qui résume l'affaire Dreyfus, celle que l'on trouve dans tous les manuels, celle qui est reproduite des dizaines de fois partout, c'est cette fameuse image de la dégradation qui est celle du Petit Journal, d'ailleurs d'autres journaux illustrés, eux aussi ont traité le thème, qui présente Dreyfus humilié, la tête plus ou moins courbée face à ce gigantesque hussard qui est là et qui brise son sabre de capitaine. Cette scène fondamentale, je crois, va tenir dans la plaidoirie de Laborie, qui plaidera 3 jours à la fin du procès pendant 3 audiences, va tenir une place importante. Laborie va tenir justement à rappeler cette scène, à la décrire longuement, et à utiliser pour la décrire les seuls documents qu'il avait à sa disposition, c'est-à-dire les journaux anti-Dreyfusards. D'ailleurs, on ne peut pas pratiquement en 95 être Dreyfusard, donc le document que l'on peut citer à cette époque-là n'est qu'un document effectivement hostile à Dreyfus. Et Laborie, très longuement, reprend justement les descriptions de cette dégradation. J'en cite un passage pour aller vite. On a remarqué que l'adjudant chargé de la triste mission d'enlever les galons et les armes du dégradé avait porté la main sur celui-ci, et déjà les premiers galons et parements, qui ont été décousus d'avance, ont été arrachés et jetés à terre. Dreyfus en profite pour protester de nouveau contre sa condamnation. Ses cris arrivent très distincts jusqu'à la foule. Sur la tête de ma femme et de mes enfants, je jure que je suis innocent, je le jure, vive la France. Cependant, l'adjudant a arraché très rapidement les galons du képi, les trèfles des manches, les boutons du dolman, les numéros du col, la bande rouge que le condamné porte à son pantalon depuis son entrée à l'école polytechnique. Reste le sabre. L'adjudant le tire et le brise sur son genou, un bruit sec. Les deux tronçons sont jetés à terre comme le reste. Le ceinturon est ensuite détaché. Le fourreau tombe à son tour. C'est fini. Ces secondes nous ont semblé un siècle. Jamais impression d'angoisse plus aiguë. Effectivement, scène terrible qui a duré quelques instants, mais qui paraît presque une éternité. Les instants décomposés durent en dehors du temps, en quelque sorte. Tous les détails comptent, les moindres galons que l'on arrache, le moindre parement que l'on peut enlever. L'exercice ressemble à une mise à mort rituelle. Il est sans doute pas très éloigné de ce que... On voit au début d'un duel, de ces préliminaires lents et angoissants qui commencent un duel, mais je crois que l'analogie s'arrête là, car le duel se pratique entre des combattants de rang égal. L'issue en est incertaine, alors que la dégradation suppose la victoire absolue d'un camp. Elle marque avec éclat la défaite de l'adversaire, elle lui enlève à cet adversaire à jamais la possibilité de riposter. Voilà, c'est un peu sur cette remarque que je conclurai, sur cette idée d'une image mythique, celle de la dégradation, qui s'impose à l'imaginaire dreyfusard, mais évidemment surtout à l'imaginaire anti-dreyfusard, car le rêve que poursuivent en vain les anti-dreyfusards, c'est de trouver devant eux des opposants sans qualification, incapables de répondre, définitivement dégradés au lieu de ces intellectuels, experts en discours contradictoires, de ces hérétiques de l'ordre social qui, au galon d'or des généraux, prétendent opposer l'illusion de leur titre universitaire, et vous me l'accorderez, c'est une prétention tout à fait dérisoire. Merci.
Avant de vous donner la parole sur ces deux conférences qui vont susciter de très très nombreux commentaires, je vais demander à Monsieur Kliblat de bien vouloir revenir pour pouvoir répondre aux questions. Et je vais faire une annonce pour tous ceux qui doivent se retrouver tout à l'heure à l'hôtel de Massa. Je vous rappelle l'adresse, 38 rue du Faubourg Saint-Jacques. Nous proposons, Jean-Pierre le Ducadine et moi, d'aller à pied jusqu'à Châtelet et de prendre à Châtelet le RER B, direction Saint-Rémy-les-Chevreuses, Massy, Robinson, c'est ce RER B jusqu'à Port-Royal. Et là, vous nous suivrez et nous vous conduirons à bon port. Pour ceux qui trouveraient trop long d'aller jusqu'à Châtelet, cette petite marche hygiénique là, vous pouvez prendre le métro à Palais-Royal jusqu'à Châtelet, échanger à Châtelet et prendre à Châtelet le RER B. Voilà.
Si je peux me permettre, pour compléter l'information, c'est l'hôtel de Massa se trouve pratiquement en face l'hôpital Cochin. Alors bon, comme l'hôpital Cochin est très bien fléché, vous devriez absolument, si vous êtes seul, ne pas avoir de difficultés pour vous retrouver.
Bien, je donne la parole à qui la demande sur... ces deux conférences extrêmement riches, monsieur. J'ignore votre nom.
Merci de me donner la parole et de dire tout de suite que dans cette assemblée d'intellectuels solviens, je voudrais apparaître ici comme un modeste collectionneur qui peut-être, dans le cadre de notre colloque, apporter quelques précisions eux-mêmes, éventuellement, pour ceux qui s'y intéresseraient, quelques documents.
Sur la première conférence, sur la première conférence, en ce qui concerne
j'en ai un exemple ici sous les yeux, alors je ne vais pas être à disposition si certains s'en intéressent. Vous avez fort bien, monsieur, traduit, si je peux dire, la marche de ces 85 numéros qui, au départ, sont consacrés plus particulièrement à cela pour une question uniquement chronologique, car nous sommes dans ce processus. Et je pense que, en dehors de ce processus-là, il faut bien dire
que c'est une opération politique d'un groupe de presse dont on connaît la presse, tout simplement la librairie, non, située encore du district Gare. Et c'est dans ce cadre-là qu'on lance un hebdomadaire tout à fait particulier.
Et, oui, c'est vrai,
et vous l'avez cité, c'est un hebdomadaire d'illustration pure. Il n'y a pas de test. Il y a de très bien quand même, il y en a dans une différence entre carandage et forain, car vous l'avez bien souligné, le carandage est beaucoup plus plié, est beaucoup plus anecdotique, et il y a certaines légendes. Tandis qu'il n'y en a pas, je ne sais pas, sous le dessin de forain. Alors, je pense qu'il est important de souligner le presque départ de l'illustré une sans commentaire. Le commentaire qui va être dans le cadre de cette approche de visibilité que vous nous donniez hier, monsieur, dans l'interprétation même de l'illustration qui est devant nous. Nous n'avons pas besoin. Et au cours donc de ces deux années de publication, eh bien nous voyons le portrait de Zola un peu s'effacer. Et c'est sur ce point que je voudrais insister pour donner une pleine lumière à l'évolution de l'affaire Zola et de l'anti-réfugiste qui se traduit sur le plan politique. Et il faut le signaler dans le chiffre, vous avez énormément de caricatures sur la politique, sur le monde politique, sur Frisson, sur Médine, sur les Juifs et sur les francs-maçons. Au point, je ne vais pas insister longtemps, au point que le dernier numéro, le numéro du 15 septembre 1999, si la mémoire est bonne, se termine par cette phrase et cet avis au lecteur. Maintenant, ça sera plus possible, notre tâche est terminée, nous en avons fini, l'armée n'avait pas besoin de se défendre, mais nous avons contribué à sa défense, et bien maintenant, merci de nous avoir.
Oui, je pense que c'est seulement évident que l'imagerie de Zola n'est pas seulement évident pendant le procès Zola, mais on a recommencé au moment où vraiment chez Forain avec l'allégorie. La condamnation de 94 est coupée. Et donc, je veux juste dire, si on peut regarder dans la popularité, l'importance à quelques moments de Zola à travers la conscience populaire, on peut employer tant des autres images. I mean, les images existent en une telle formidable corpus qui deviennent comme on commence à ranger avec l'iconothèque Zola, plus en plus avait la possible de employé. Et c'est naturellement ce que tout le monde connaît, le moment de naissance du média. Et donc, ce que M. Page a dit, c'est qu'il y a beaucoup à lire sur les images, même textuelles que visuelles.
Une autre question? Nelly?
Oui, je voudrais d'abord adresser une observation à Monsieur
c'est très intéressant de voir l'image que les Dreyfusards se sont fait de Zola. Parce que, en somme, l'image anti-Dreyfus de Zola est assez facile et compréhensible. Mais ce qui est beaucoup plus délicat, c'est l'image que les Dreyfusards se sont fait de Zola. Et là, je crois que Picard a beaucoup mieux arranger les affaires. Enfin, un homme physiquement très beau, un soldat de la République, alors que parmi les Dreyfusards, il y avait quand même beaucoup, beaucoup qui n'ont pas du tout aimé Zola, naturaliste, et qui se sont interrogés, en fait, sur son rôle dans l'affaire Dreyfus. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques à faire. Et à Alain, je voudrais peut-être ajouter une remarque à son observation sur l'image de la dégradation. Vous avez dit que cela a dominé un peu la mentalité, enfin l'imagination de Dreyfusard. Oui, je suis d'accord, mais il faut ajouter que rétrospectivement, parce qu'à l'époque de la dégradation, d'abord il y avait très peu de Dreyfusards, quasi aucun, et on ne s'est pas rendu compte de la tragédie, du tragique de la cérémonie des dégradations pour la victime et sa famille. C'est venu beaucoup plus tard.
Tout à fait d'accord. Ce que j'ai justement voulu un tout petit peu analyser, c'est l'image de la dégradation en 98, hein, au moment du procès. Effectivement, à l'ère rétrospective.
Autre question? Nous avons encore 10 minutes. Oui.
Je ne voudrais pas qu'après la parole, je voulais simplement prendre une petite remarque, non pas à l'exposé de M. Pagès, on ne parle pas sur cela après M. Pagès. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il ne faut pas trop s'étonner du manque de photos et du manque de documents sur la affaire de Dreyfus. Et sur le procès Zola, vous voyez dans le procès Dreyfus, ce qui est complètement différent. Et il faut dire ce qu'est l'Union de la Suisse et ce qu'est un conseil. Il n'y a pas pratiquement, on ne doit pas pratiquement de photos. Et c'est interdit. Et les photos que nous avons sont pour la plupart des montages. Et vous avez fort bien choisi, car ce n'est pas très difficile, car il n'y en a pas beaucoup, vous avez montré le groupe des jurés et de la Cour d'assises. Avec l'autorisation du président, bien entendu. Tout ce que nous voyons dans le petit journal, voyez, ce sont, je le répète, des tâches. C'est donc la première remarque qui justifie notre approvisionnement de documentation. Mais je me permets de dire, les collectionneurs de cartes postales diront autre chose. Nous avons un nombre considérable de cartes postales sur Zola, sur l'affaire Dreyfus. Je ne sais pas si c'est utile, mais je vous proposerai demain d'en inviter au moins quelques-unes des grands éditeurs, Dorance, Reims et voilà. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, tous les illustrateurs critiquent le Zola, et le Zola, si je peux dire, réhabilité par la plume, ou plus exactement, là, par le stylet. Et les séries qui sont les plus intéressantes, ce sont celles de la révision du procès. Car là, on a autorisé, pas, j'allais dire, privilège spécial, mais tout simplement pour bien montrer ce qu'était une cour de renvoi, c'est-à-dire qui allait confirmer le procès qui était d'avance, la Corée des autres le disait, comment ça se passe. Et nous voyons dans quelles conditions arrivent les avocats, dans quelles conditions arrivent les jurés. Tout cela est photographié parce que ça se passe à l'extérieur de la salle de l'audience. Donc, une documentation de carte postale extrêmement riche. Et je crois ce qui mériterait un très long développement, c'est pas à faire, ce sont les collections que nous avons qui viennent d'Allemagne et qui viennent d'Italie. L'Allemagne se réjouit à fond, on comprend bien, de l'affaire Dreyfus. Et aussi, de ce que l'on dit, se mépange sur la position d'Esperanti. Et là aussi, nous comprenons quelle utilisation politique par ce simple jeu de la photocarte de l'autre côté de l'Allemagne. Je voulais apporter simplement aussi ces documents qui peuvent
voilà, je vous remercie de ce commentaire que vous faites aux deux exposés effectivement qui viennent d'avoir lieu. Ce que vous dites sur l'impossibilité de photographier dans une cour d'assises, c'est vrai, est un fait juridique. Je crois plus vrai dans le monde anglo-saxon que dans le monde français, c'est une chose à préciser. Mais de toute évidence, le dessin qui recompose l'événement est lié, c'est vrai, au fait qu'on ne peut pas tout à fait montrer la justice.
De nos jours aussi, on a des tests à la télévision. Une dernière question ? Non ? Alors, je lève la séance. Et je dis à demain 9h très précise, puisqu'il y a 5 communications demain matin.
Et je voudrais préciser que il y a dans la suite de ce colloque, presque dans la même veine, un colloque sur l'usage de l'image, les usages de l'image, et du 24 au 26 octobre prochain au musée d'Orsay, à l'auditorium du musée d'Orsay, et que l'organisatrice de ce colloque est notre amie Nicole Savy. Merci.
C'est si beau comme sujet. Renac écrivait que cette cause était si belle qu'elle rejaillissait sur les défenseurs. Je crois que ceux qui s'intéressent à la future réflexion maintenant, c'est un peu pareil. On n'arrête pas. Ah oui, oui, tout à fait. C'est anormal. Moi, je compte donc publier un petit livre, ce n'est pas énorme, mais je pense bien à cette petite annexe où je préciserai les différentes thèses. Et comme vous avez vu, parce que vous envoyez les boches.
Je mets votre thèse en ligne.
Voilà, j'aimerais vous la présenter. Je ne sais pas s'il était là aujourd'hui, je ne crois pas. Mais vous la verrez à mes dents dimanche. Vous venez dimanche.
J'ai l'intention de venir.
Voilà, voilà. Je vous la présenterai. J'avais l'intention de le faire. Hein, je vous la présenterai. Elle habite Paris, elle est blanche, je peux vous donner son adresse. Elle habite 213 de l'université. Voilà. Je n'ai pas besoin de le présenter, bien sûr, mais je vous la présenterai. Je suis sûr qu'elle sera heureuse de faire votre connaissance.
C'est une dame âgée.
C'est une dame âgée, c'est une amie de Lombarès. Donc elle tient beaucoup à la thèse de Michel de Lombarès, mais elle en comprend les défauts, et votre thèse l'a tout à fait séduite. Mais bon, elle aime beaucoup Lombarès.
Elle aime beaucoup Lombarès.
Oui, Lombarès. Non, c'est une, en plus, c'est une amie de Lombarès.
C'est un peu
compliqué, c'est ça. Elle le connaît très bien. Elle est très déçue par Morin et par les gens.
C'est
une chose banale, quoi. En même temps, c'est un puits sans fin, on n'arrivera jamais à la vérité.
On peut essayer de l'approcher.
Non, mais je trouve de toute façon, c'est ce qui m'intéresse, c'est plus peut-être le mécanisme de recherche que. L'aboutissement, et c'est pour ça que je suis passionné par une bonne thèse. Et donc, on publiera, hein, je vous l'ai proposé dans les cahiers, une petite chronique qui sera un petit complément à ce que vous avez dit pour ne pas faire maintenir l'attention des lecteurs.
Vous pouvez envoyer un petit article que je vais préparer pour une petite revue.
Ah oui, mais attention, il ne s'agit pas de comprendre les livres de Thomas, non. Il ne s'agit pas de ça. Si, parce que non, parce que vous l'avez pas lu, parce que le compte-rendu du livre de Thomas, on l'a fait un peu rapidement, mais on l'a fait dans le numéro de cette année, donc on ne va pas le refaire. Oui, oui, c'est très court. Vous voudriez le reprendre, ce compte-rendu. Pourquoi pas, on pourrait le reprendre. Pourquoi pas,
moi, je
vais
faire tout ça.
Non, moi, ce que j'avais pensé, oublié de vous, c'était les trois dernières pages de l'article, les quatre dernières.
Écoutez, je tiens à vous féliciter, parce qu'en ce moment, l'intérêt va porter le but de la et le cœur. C'est vrai, vous savez, vous m'avez envie de gâcher. Alors moi, je m'apprécie, donc je ne vais pas nous proclamer.
Je ne vais pas vous faire de mal, c'est la vérité. Voilà. Donc ce serait une sorte de revenez-y en quelque sorte, mais dans une chronique.
Je vais les arranger.
Voilà.
D'autant plus que j'ai actuellement des éléments pour le compléter.
Voilà. Et voilà. Hein? Parce que vous avez fait une suite dans un numéro qui est suivi sur la date du Bordereau, et donc ça serait une deuxième suite. Bon, puis on joue un peu sur la chronique.
D'accord.
On en reparlera, mais dans. Voilà. À bientôt, M. Garnal.